tous dans votre grande table. Idée à partir de 12h55, des mots, pourquoi faire ? Elle ouvre une nouvelle réflexion sur la dimension performative du langage à l'ère de la post-vérité. Entrée sous la coupole au printemps, la philosophe américaine, Barbara Cassin est notre invitée à l'occasion de l'apparition de Candire, c'est vraiment faire, chez Fayard. Mais d'abord, une grande dame de l'art contemporain rencontre l'un des principaux sculpteurs modernes de l'après-guerre. Ils n'ont pas choisi de faire chambre à part. Dans le tout nouvel institut inauguré avant l'été, ils font au contraire chambre commune avec vue sur leur singularité. Quand Annette Messager rencontre Alberto Giacometti, l'artiste plasticienne est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
C'est une artiste de l'imaginaire et de l'intime, entre peinture, sculpture, assemblage, broderie, révélée par sa série des maisons en 70. Une artiste sérielle aussi de ses collections de champignons ou de proverbes à sa série des vœux, fragments de corps à mi superposés. On l'avait quittée à mon seul désir, de ses expositions présentées à la galerie Marianne Goodman. On la retrouve aujourd'hui ici avec Giacometti dans ce nouvel institut qui a ouvert ses portes avant l'été. Bonjour Annette Messager.
Bonjour.
Des formes filiformes, un homme qui marche, le peintre et sculpteur suisse, décédé en 1966, Alberto Giacometti, vous a ouvert les portes de son atelier. Jusqu'ici, c'était une silhouette pour vous attablée seul au Select. Vous avez à peine rencontré Alberto Giacometti auparavant. Est-ce que maintenant, vous pourriez dire que vous l'avez fréquenté ?
Oui, je crois que en préparant cette exposition, j'ai vraiment vécu avec lui. C'était à la fois mon père et mon amant, plutôt mon amoureux d'ailleurs, parce que je crois que Giacometti aurait été un drôle de père. Et la proposition de la Fondation Giacometti, c'était de tu as l'espace, il y a l'atelier Giacometti et tu prends le reste. Mais ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment essayer de dialoguer, de faire une rencontre avec lui. Et je l'ai fait pour de vrai, j'ai l'impression. Je me suis vraiment prise au jeu. C'est pas un lieu facile parce qu'il est à la fois intime et assez chargé, très décoré d'une architecture intérieure comme ça des années 20. Et on voit que justement Giacometti, ça marche partout, ça va dans un white cube et ça va aussi bien dans un espace qui est le contraire de ce qu'il est, puisque ses sculptures sont très épurées, très simples, très hiératiques. Et voilà, j'ai essayé de faire quelque chose avec lui.
Quelle place vous lui accordez dans votre panthéon des grands artistes, Alberto Giacometti ?
Un très très grand respect, hommage, et à la fois il faut, quand on honore quelqu'un comme ça, il faut être aussi avoir de l'impertinence parce qu'il est très sacralisé aujourd'hui, Giacometti, donc c'est pas facile de vouloir faire quelque chose avec Alberto. Mais non, en fait, j'avais fait une pièce il y a 10 ans, 8 ans, je ne sais pas, où j'avais fait une sorte d'hommage à Giacometti. Et la directrice, Catherine Grenier, connaissait cette pièce. Elle m'a dit « Tu vas montrer ça ». Donc, j'avais fait ouvertement des faux Giacometti. Il y avait l'homme qui marche, la femme et le chien. Et pour moi, le chien de Giacometti, c'est le portrait de Giacometti. C'est un chien errant, comme ça, qui flaire partout. C'est vraiment lui-même. Et c'est vraiment ouvertement des faux. Ils sont faits en papier d'aluminium noir, comme ça. Et donc, j'ai une salle qui est consacrée à cette pièce, très réduite, parce que normalement, elle est très grande et très étendue au sol. Et puis le reste, c'était passionnant parce que j'ai voulu regarder plein de documents qui n'étaient jamais sortis, des petits, parce que il était comme un étudiant toute sa vie. Il a rencontré des artistes et après, il voyait Picasso. Après, dans son carnet, il dessinait un Picasso qu'il venait de voir dans son atelier. Il
dessinait beaucoup. Il faisait beaucoup de croquis. Hein. Oui, pour lui, le dessin était quand même un préambule à tout. Il fallait pas perdre la main.
Oui, oui, non, mais vraiment, un Rodin, une photo de Rodin, il lui ajoute des pieds, des bras, une tête, une sculpture de Rodin, enfin, vraiment, assez enfantin. Il voit un dessin à la craie dans la rue, fait par des enfants. Il essaye de le recopier. Enfin, il regardait partout.
Vous évoquiez, Annette Messager, la conservatrice et historienne d'art, Catherine Grenier, directrice de la Fondation Giacometti, qui a pensé et voulu cet institut Giacometti avec une reconstitution à l'identique de son atelier, quelques mètres à côté de celui qui avait existé vraiment. D'ailleurs, c'est passionnant, la femme de Giacometti avait gardé toute la structure de l'atelier, et même les murs qu'on retrouve ici, et les sculptures qu'il était en train de travailler.
Et ça, les mégots de cigarettes, et ses lunettes, et
voilà. Tout. Catherine Grenier, qu'on recevait au printemps dernier à la Grande Table et qui évoquait ce qui était pour elle la marque de fabrique presque de Giacometti, c'était sa liberté.
Ce qui est très spécifique de Giacometti et ce qui en fait un personnage, je pense, très admiré des artistes aujourd'hui, alors que ça l'a sans doute desservi de son temps sur le plan de ce qu'on appellerait aujourd'hui la carrière, c'est que il est irréductible à un mouvement, véritablement. Il a traversé le mouvement surréaliste, il s'y est arrêté pendant 5 ans, il est devenu très rapidement, alors qu'il prenait le train en marche d'une certaine façon, il est rentré tardivement dans le mouvement surréaliste, il est devenu une des figures proéminentes de ce mouvement, et notamment parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sculpteurs aussi dans le mouvement, et donc il a amené un second souffle avec d'autres artistes de son âge, comme Dali par exemple, dans ce mouvement, mais très très vite, au bout de moins de 5 ans, il a décidé de changer son style, d'aller vers d'autres expérimentations, de revenir à des réflexions sur la sculpture, des réflexions sur le regard. Il parlait toujours beaucoup de la question du regard, c'est-à-dire de notre lien au réel, de notre lien à la vie. Et à partir de ce moment-là, il a plus voulu jamais être associé à aucun mouvement artistique. Donc c'est cette liberté, en fait, de l'artiste qui est ce qu'on pourrait décrire comme étant le plus spécifique de Giacometti.
Un artiste libre, Annette Messager.
Oui, parce que après le mouvement surréaliste, quand il a quitté, fâché avec Breton, il est revenu, enfin, pendant 10 ans, après ça, il a été très isolé. Personne ne comprenait ce qu'il faisait et il a voulu revenir à la figuration. Or, c'était l'avant-garde, c'était au contraire l'abstrait, Soulages. Donc, les gens ne comprenaient absolument pas. Et ses amis, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, il a été libre de faire ce qu'il avait envie de faire, de chercher, comme il dit, de rater, et pour ça il était très très ami avec Beckett qui dit rater encore, rater mieux, et ça c'est tout à fait Giacometti aussi.
Alors est-ce qu'il aurait aimé, je suis sûre que vous êtes posé cette question, ce dialogue avec vous, avec une artiste femme?
Je m'impose, oui. Ce qu'il aurait aimé, et ce qui a été important pour moi, c'est que je m'appelle Annette. Or sa mère s'appelait Annetta, et sa femme s'appelait Annette. Donc, évidemment...
Les deux femmes de sa vie, avec oui. Le même prénom que le vôtre.
Voilà, donc j'ai fait la chambre des Annettes, où je me suis mise dedans, et différentes chambres dans ces espaces.
Et d'ailleurs, quand on s'y balade, c'est une coïncidence assez troublante, hein, puisque Annette, sa femme, il lui consacrera, elle va lui inspirer de nombreux croquis, une petite statuette aussi. Il va l'épouser en 49, elle va le suivre, hein, tout au long de sa vie. C'est une coïncidence troublante, mais pour vous, ça a été aussi une coïncidence assez jouissive, un plaisir de jouer avec ces figurines, ces dessins qui portaient votre prénom.
Oui, oui, absolument. Il écrit, Annette est la femme la plus intelligente que j'ai rencontrée, etc. Des mots d'amour au nom d'Annette. Donc tout ça était merveilleux pour moi. Et donc, j'ai séparé l'espace où il y a plusieurs petites pièces en différentes salles. Donc il y a la salle des Annettes, il y a la salle des rencontres, des amis, des ennemis. Il y a la salle, je me souviens plus, des légendes, et la salle des désordres. Ouais.
Voilà, il y a des nez-à-nez.
Et des nez-à-nez.
Oui. J'ai bien juste qu'on reste une seconde dans cette salle des Annettes. La parade de l'écureuil pour Annette que vous avez imaginée, c'est à la fois un hommage, mais c'est aussi un pied de nez, cet écureuil empaillé, emprisonné dans les mailles d'un filet, qui regarde manière presque un peu provocante ou insolente cette statuette face à lui?
Oui, oui, bien sûr, parce que l'animal est assez joyeux, mais il est quand même enfermé dans des filets. Et ça avait aussi un lien avec ce que j'aime beaucoup aussi, c'est Giacometti, c'est les architectures qui l'a faite. Par exemple, le nez, il a une structure, une sorte de cage, et puis il y a cette proéminence qui devient encore plus étrange parce qu'elle sort de cette architecture, de cette petite construction. Donc non seulement il a fait des personnages très figuratifs, mais je crois qu'il a compris l'importance de la sculpture et de cette espèce d'architecture que Bacon d'ailleurs a repris, qui vient de lui, j'en suis sûre.
Annette Messager, une partie de vos pièces exposées ont été réalisées pour l'exposition, pour ce dialogue. D'autres sont plus anciennes et elles y répondent à des œuvres de Alberto Giacometti. Comment vous avez ouvert ce dialogue? Sur quel registre vous l'avez pensé quand on vous l'a proposé? Quand Catherine Grenier vous a dit carte blanche, allez-y, Annette Messager, comment vous avez imaginé ce dialogue avec lui?
Ben, pour dialoguer avec quelqu'un, il faut d'abord connaître sa vie. Et donc, j'ai lu beaucoup de choses et j'avais un commissaire, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, Christian Landette, qui m'a montré beaucoup de documents, de lettres qu'il avait écrites. Et par exemple, j'ai découvert qu'il aimait beaucoup le cinéma et qu'il dit lui-même que le cinéma l'a énormément influencé. Parce que c'est le vide autour des acteurs, en fait c'est le vide qui l'intéresse, c'est pourquoi ces sculptures se seraient amincies. Bon, c'est ce qu'il dit, vous savez, les artistes ne faut jamais trop croire à leur discours. Et donc moi j'ai imaginé que j'étais allée au cinéma avec Giacometti, et par exemple que nous avions vu le film Le cuirassé Potemkin d'Eisenstein. Évidemment, c'est pas vrai, mais c'est devenu tellement vrai. Parce que je pense que ces bouches hurlantes, ces cris comme ça dans ce film, et c'est ce landau qui tombe de marche en marche, c'est très proche de Giacometti pour moi. Donc j'ai repris vaguement ça, j'en ai fait des dessins, j'ai mélangé. Et oui, parce que ce que j'aime, c'est Giacometti. Si notre monde disparaît, voilà, il y a une catastrophe tout à fait possible, envisageable, d'un monde détruit, et qu'il reste le chien de Giacometti, par exemple. On va jamais savoir, c'est complètement intemporel, sa sculpture. On peut pas dater, ça n'a pas de temps. Donc ça, je trouve que c'est assez rare. En général, on dit oh, c'est un bon artiste du XXe siècle, c'est un bon artiste du début des années 80, ça c'est encore pire. On date toujours, mais les Giacometti, ils sont indatables.
Intemporels.
Intemporels, ils sont à la fois fragiles et invulnérables. Ces petits personnages en plâtre, ces femmes, les femmes de Venise, qui sont un hommage à des prostituées d'ailleurs, c'est splendide, c'est fait avec rien, c'est fait avec un fil de fer, et d'ailleurs il les a terminées à la tête à Londres, il avait une exposition dans le musée, il a rajouté de la peinture, il n'avait pas fini. Et moi aussi, c'est fait avec du fil de fer, des bouts de tissu, c'est rien du tout.
Vos pièces à vous, vous avez le sentiment qu'elles sont beaucoup plus datées, dans le sens, non pas de caduc, mais dans le sens de réponse à l'époque aussi, que vos pièces sont beaucoup plus installées dans une temporalité?
Certaines, mais pas toujours. Par exemple, j'avais fait une pièce en 2014 sur les interdictions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des panneaux d'interdiction partout. Ça a commencé par l'interdiction de fumer. Et puis, tout est interdit. C'est pour notre bien, mais aussi c'est pour nous enfermer, pour qu'on soit très sage. Donc là, c'était intimement lié à ce que je voyais dans la rue, autour de moi, partout. Et je regarde partout, moi, dans la rue. J'adore regarder les gestes des gens, dans le métro, les vitrines. J'ai cette curiosité-là. Et les journaux, j'aime beaucoup les journaux, le papier, des titres, des mots, n'importe quoi.
Alberto Giacometti, on va écouter sa voix pour restaurer ce dialogue sur son rapport à sa sculpture.
J'ai commencé à faire de la sculpture parce que c'est exactement le domaine où j'y comprenais le moins. Alors, En fait, il fallait passer outre et faire autre chose qui me convenait mieux. Je ne pouvais pas supporter ce domaine qui me sapait complètement. Donc, il fallait faire de la sculpture, et au fond, pour s'en débarrasser. Hein, j'espérais d'en comprendre assez vite, assez, pour faire autre chose. En fait, je n'ai encore rien compris. Donc, je suis obligé d'insister. Mais enfin, ce n'est pas... Il n'y a pas de choix.
Donc pour vous, c'est jamais le sentiment d'une réussite.
Il ne peut pas y avoir une réussite parce que réellement, ce que ça peut être aujourd'hui la sculpture et à quoi elle peut correspondre, je n'en sais encore rien. Enfin, c'était jusqu'à maintenant des essais ratés. Parfaitement ratés.
Alors vous avez peut-être raison, on ne peut sûrement pas croire à tout ce que dit l'artiste, tout ce qu'ils disent les artistes. Il n'avait rien compris, ça vous y croyez, vous, qu'il n'avait vraiment pas compris ? Qu'il était dans une quête, peut-être, permanente ?
Oui, il était dans une quête permanente, c'est certain. Il travaillait énormément, il travaillait la nuit, il travaillait tout le temps. Il sortait avec Beckett, ils allaient boire du whisky et puis rentrait travailler. Donc il était tout le temps en recherche. Et puis ce petit atelier, cet antre... Je ne pense pas. Là, il a l'air très humble sur le ratage. Et je crois qu'un artiste, s'il continue, s'il persévère, c'est qu'il croit qu'il apporte un tout petit quelque chose, qu'il fait quelque chose, que ça avance. Donc, son discours est vrai et pas vrai.
Alors, si cette parole de l'artiste est toujours un peu fragile ou éphémère, il reste quand même ses œuvres. Et vous êtes pour cette exposition, ce dialogue que vous avez créé entre vous deux, replongé, vous l'évoquez, dans ses archives, dans ses œuvres, dans son atelier. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entré dans son intériorité d'homme ou dans son intimité d'artiste?
Je crois que les deux vont ensemble et je ne sais pas. C'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose avec un autre artiste, surtout un mort comme ça, si sacré aujourd'hui, que de faire une énorme exposition toute seule où je fais ce que je veux, je suis libre. Mais là, je me disais, mais tu vas être ridicule, ma pauvre fille. Oser vouloir ajouter un nez au nez de Giacometti, oser faire ça, on va te tomber dessus, mais en même temps, c'est ça qui était passionnant, c'est ça qui m'a intéressé, c'est ça qui m'a apporté, parce que ça m'a vraiment passionné. Hein. J'étais vraiment prise cet été, avant l'été, par Alberto.
Et vous avez dressé un fil, un lien entre le nez de Giacometti et Pinocchio, une figure récurrente aussi à travers votre œuvre à vous, Annette Messager. Elle était notamment déjà présente dans Casino, qui a été présenté et récompensé à la Biennale de Venise en 2005. Et Biennale d'ailleurs où Giacometti va lui obtenir un grand prix de la sculpture. C'était quelques années auparavant, en 62. Dans la chambre des désordres, vous avez retrouvé aussi des dessins érotiques dans ses carnets. Il y a aussi ces 4 figurines en plâtre inspirées des prostituées d'un bordel de Montparnasse où il avait ses habitudes. Et l'écho que vous donnez à sa boule suspendue, aspect peut-être un peu moins connu de son œuvre, cette charge érotique d'une partie de ses sculptures. Quel était son rapport aux femmes ? Vous qui êtes une femme artiste et une artiste ou une femme féministe aussi.
Il écrivait beaucoup. Hein. Il a écrit énormément. Toujours, il avait beaucoup d'amis femmes et il les respectait énormément. Ce que les jeunes gens ne comprennent pas, parce que j'ai parlé beaucoup avec des jeunes femmes, il allait voir les prostituées, mais en même temps c'était un lieu, le Sphinx, où c'était une sorte de club où on buvait un verre et il a quand même écrit que les prostituées étaient des déesses.
Donc, et elles étaient ses modèles aussi, hein, par ailleurs.
Mais jamais il n'a fait poser une femme nue à part sa femme, paraît-il. Seule Annette avait le droit de poser nue. Mais ce qu'on ne voit, que j'ai vraiment aimé aussi, c'est qu'en fait, l'œuvre de Giacometti est grotesque. Je crois que le Pinocchio, enfin, c'est pas Pinocchio, pardon, c'est le nez. C'est que il est né en Suisse, et il y a une grande tradition de carnaval que moi j'ai, puisque je suis née dans le Pas-de-Calais ou à Dunkerque, il y a aussi cette tradition de carnaval qui existe encore, ou de géants. Et je crois que il n'a jamais parlé de Pinocchio, il n'a jamais parlé de carnaval en Suisse, mais je crois que ce côté comme ça très grotesque de ces bouches ouvertes, de ces visages qui sont à la fois des squelettes, c'est assez très morbide. Et les carnavals sont faits pour changer les normes, pour jouer avec la mort, pour être plus fort que la mort. Et je crois que c'est ça aussi l'œuvre de Giacometti.
France Culture, il est midi 22 avec notre invitée Annette Messager à l'occasion de la rencontre dialogue qui se crée en ce moment à l'Institut Giacometti, Alberto Giacometti, Annette Messager, Nos Chambres, c'est à voir jusqu'au 13 janvier.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Pour cette exposition Annette Messager, vous avez imaginé cinq chambres où la rencontre se fait, où le dialogue se crée, des chambres à soi, vos espaces chez vous, ces chambres à deux. Qu'est-ce qu'une chambre ? C'est un meurtre dont on ne retrouve ni la victime ni le coupable et qui ne laisse pas de traces. Extrait d'un dialogue surréaliste de 1933 entre Alberto Giacometti et la poétesse Marcel Ferry pour Le jeu des définitions. Quelle est votre définition à vous de la chambre, Annette Messager ?
Oh bah c'est une anti-définition, parce que la chambre, au contraire, ça peut être très bordélique avec... enfin, je ne vais pas vous inviter dans ma chambre, mais il peut se passer beaucoup de choses, des choses dramatiques, des choses joyeuses, des choses avec le petit chat, le chat qui dort avec moi, qui me parle, qui me raconte des tas d'histoires. Enfin, c'est un univers incroyable d'une chambre. On ne peut pas définir une chambre. C'est... aussi Virginia Woolf, qui a une chambre à soi. C'est très très important. Et au début, quand j'ai commencé mon travail, justement, j'ai dans mon désordre, j'ai de l'ordre. Donc j'avais séparé mon petit appartement en différents lieux. Je m'appelais aussi Annette Messager collectionneuse, Annette Messager femme pratique, etc. Et je découpais l'espace comme ça, suivant les travaux que je faisais. Donc, et j'avais fait un plan de l'appartement, et là j'ai refait un plan avec les lieux de Giacometti, où j'y ai mis même l'atelier sacro-saint de Giacometti qui est reconstitué. J'y ai mis un secret, parce que personne de l'institut, il y a un moment, mon commissaire s'est échappé et j'ai réussi à...
Et personne ne sait ce que c'est ?
Non. Personne ne le trouvera jamais.
On peut le voir à l'œil nu ? C'est-à-dire on peut se prêter au jeu et
essayer
de deviner ?
Ça peut être dans la doublure de son manteau qui était un peu déchiré. Ça peut être... Enfin, tout ce que je dis est faux, puisque personne ne le trouvera jamais.
Et vous ne voulez pas qu'on le trouve ? Et il restera là ?
Ouais.
C'est un petit mot ?
Et donc l'alarme s'est déclenchée très vite et je suis sortie en dehors.
Bah, comme une voleuse.
L'alarme était mal branchée, etc. Donc, mais ça... C'est un secret entre lui et moi.
Annette Messager, artiste, bricoleuse, femme colporteuse ou encore collectionneuse, vous l'évoquiez, parmi toutes ces identités définies dans les années 70, vous rattachez cette dernière, celle de collectionneuse, à la chambre, sorte de pendant de l'atelier entre double vie et vie cachée. 1973, sur les travaux de la chambre, vous écriviez « Dans la chambre, je cherche à posséder et à m'approprier la vie et les événements dont j'ai connaissance. Continuellement, je dépouille, je rassemble, j'ordonne, je trie et je réduis le tout à l'état de nombreux albums collection. Vous collectionnez beaucoup, Annette Messager. Écoutez, peut-être, vous disiez cette impossible définition de la chambre, celle que nous en donne l'historienne Michèle Perrault. L'ordre de la chambre reproduit l'ordre du monde dont elle est la particule élémentaire. Ce sont les derniers mots de son essai, Histoire de chambre. Elle nous en dit plus.
C'est infiniment petit qu'est la chambre, une boîte au fond, hein, avec son plancher, son plafond, ses murs, sa porte. Et sa clé et sa fenêtre renferment un peu le monde entier. Et on peut, à partir d'elle, en faire un observatoire de tout, des relations sociales, des relations entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, entre la santé et la maladie. C'est vrai que la chambre contient tout. J'avais une amie, j'ai toujours une amie, qui a travaillé beaucoup sur la cellule. Et j'étais absolument, c'est une scientifique de grande réputation, Nicole de Doirin, et elle travaillait sur l'embryon de poulet. Et je me demandais toujours ce qu'on pouvait bien faire sur la cellule de l'embryon de poulet. Et ce modèle du scientifique qui, au fond, ne fait des découvertes qu'en s'attachant à l'infiniment petit, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fascinée. Et d'ailleurs, Pascal, le ciron dans lequel on voit les étoiles. Or, Pascal est un grand maître de la chambre, essentiel. Tout le malheur des hommes vient de ceux qui ne savent pas rester en repos dans une chambre. Mmh. Et ce maître du 17e a pour moi été quelqu'un d'important.
La chambre, c'est infiniment petit. La chambre, une particule élémentaire. Elle est assez belle, cette définition de Michel Perrault. Hein.
Oui. Et ce que j'aime aussi dans l'atelier de Giacometti, c'est qu'il y a un lit. Il y a son matelas. Et moi, dans mes espaces différents, il y a toujours une sorte de lit. C'est très important, parce que c'était très petit, l'atelier de Giacometti, donc ça prend de la place. À mon avis, c'était recouvert d'un monceau d'objets, de sculptures, de pinceaux, etc. Mais c'est très important de s'allonger, de lire allongé, de ne rien faire. C'est très important de ne rien faire, d'être là, de laisser son esprit libre. C'est à ce moment-là qu'on se renouvelle et qu'on trouve des choses. À ce moment-là, dans ma chambre, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de magazines, de livres, de journaux. Je découpais. Maintenant, en fait, c'est plus à l'ordinateur que je travaille parce que j'allais au marché aux puces maintenant. Le grand marché aux puces, c'est Internet. Et on trouve tout. On trouve des choses absolument étonnantes. Donc, ma manière de changer à travailler.
Vous dites se renouveler de cette rencontre, justement, parce qu'on a parlé de ce que vous avez pu découvrir de Giacometti. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous-même? Est-ce que vous avez le sentiment qu'à travers ce dialogue que vous avez créé avec lui, vous avez découvert quelque chose en vous que vous ne connaissiez pas, une force, une faiblesse?
Mais je me le demande. Je me le demande et je pense que ça fait son chemin. Là, évidemment, je m'en dégage. On se sépare, Giacometti et moi. Mais ça laisse des traces, c'est évident. Mais je ne veux pas trop savoir, trop analyser tout ça.
Merci beaucoup à vous, Annette Messager.
Merci.
Giacometti, Messager, Nos Chambres est à voir sur réservation à l'Institut Giacometti jusqu'au 13 janvier. Il faut simplement s'indiquer, se signaler quand on veut y aller, parce que c'est tout petit cet espace et il faut avoir réservé pour se rendre à l'Institut. Merci à vous.